BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais. Vous attendiez une émission exceptionnelle, mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous et vous allez voir, c'est quelque chose. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission spéciale. Vous avez bien entendu, hein, pas exceptionnelle. Une émission spéciale. Spéciale parce qu'on va faire ensemble un petit voyage dans le temps, dans le monde d'après. Après le Covid, après l'après-Covid, après l'invasion de l'Ukraine, après la hausse des taux par les banques centrales, ça va être donc une émission spéciale monde d'après, économie, finance, placement, argent, votre argent, dans le monde d'après, comment l'investir, qu'est-ce qui va devenir. On va se poser un peu et se projeter. Alors vous savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, bon ça vous aviez l'habitude, il fallait des invités exceptionnels. Mais pour une émission spéciale, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut des invités spéciaux, très spéciaux même. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie, de la finance et du monde d'après. Alors elle, ce qu'elle a de spécial, outre ses connaissances parfaites des mécanismes économiques, c'est sa capacité à les expliquer simplement et avec conviction. Valentine Hénouze, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute dans le monde d'après. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Dans le monde d'après, ça sera quoi votre poste ?
Dans le monde d'après, mon poste. Bonne question, Marc. Ce sera bon. Un poste peut-être dans un secteur différent, dans un environnement différent. Il y a une multitude d'options offertes.
Ce qu'il a... Bah oui, c'est fait exprès. Ce qu'il a de spécial, ce sont ses lunettes roses qui lui permettent de voir loin, très loin, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans. Alors, franchement, bravo, parce que ça fait des années que vous venez. Ça fait des années que vous nous dites contre vents et marées, toujours plus haut. On fait des records sur records. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des baisses de 5-10%, c'est des corrections. Vous allez nous dire, vous les avez apportées ou pas ?
Bien sûr.
Vous allez nous dire si l'avenir est rose. Christian Bito, je rappelle que vous êtes un transfuge, un traître un peu, puisque vous avez fait HEC et que vous êtes prof à l'ESSEC. Vous savez qu'on ne vous pardonne pas là-bas sur le campus.
Nous l'avons fait ensemble, Marc, HEC.
Mais vous savez qu'on ne vous pardonne pas. Ce qu'il a de spécial, alors ça, lui, c'est vraiment super étonnant, vous allez voir. Il arrive à se projeter dans le monde d'après, tout en vivant dans le monde d'avant. Il ne faut surtout pas lui dire qu'il n'y a pas de roi en France. Il ne s'en remettrait pas. Louis de Montalembert, vous êtes toujours, alors qu'on est en 2023, régent de Pléiade AM.
Oui, et mon poste d'après, c'est empereur.
Ah, ouais. Un empereur, mais pour oui, un royaliste, non
oui, bah,
c'est pas terrible, non
C'est vous qui le dites, Marc.
Alors lui, ce qu'il a de spécial, c'est un talent qui lui permet d'allier les compétences d'un économiste, la force d'un culturiste sur fond de créativité capillaire. Christopher Ndembig, vous êtes dans le monde d'avant, vous étiez directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Vous serez quoi dans le monde d'après ? D'abord, vous aurez plus de cheveux parce que vous avez fait des implants, mais à part ça...
En effet. Ah bah peut-être président un jour.
Président ?
Ouais.
Ça vous dit ça ?
Ah, peut-être.
C'est un job de merde, non ?
C'est un job de merde.
Vous avez envie qu'on tape des casseroles sur votre passage quand
on parlera justement des casseroles avec peut-être les matières premières, les métaux. Donc, vous voyez, on fait le lien avec ça.
Allez, le mot spécial, c'est après. Nous avons eu le Covid, nous avons eu l'après-Covid, nous avons la guerre en Ukraine. Alors, à quoi va ressembler le monde économique d'après ? Si on nous projetait, hein, le monde d'après, c'est 2024, c'est 2025 et c'est même au-delà. Tout d'abord, Valentine, qu'est-ce qui a changé en fait ? Qu'est-ce qui a changé avec le Covid, avec l'après-Covid, avec la guerre en Ukraine ? Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui fait que le monde d'après ne ressemblera pas au monde d'avant ?
Alors, ce qui a changé déjà, je dirais le premier point, c'est la très forte intervention des États. On a vu pendant la guerre, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, ça a conduit les États à intervenir fortement dans les économies, à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, à limiter les faillites des entreprises. Hein. On peut voir qu'on a eu l'activité économique qui s'est presque arrêtée pendant le Covid et on a eu une hausse des prix de l'énergie. On n'a presque pas de défaut des entreprises. Donc très forte intervention des États. Après, ce que je dirais, l'autre point dans le monde d'après, c'est des besoins en investissement qui sont importants, des besoins d'investissement, je sais que Marc vous n'êtes pas d'accord, mais pour financer cette transition vers une économie décarbonée, donc les estimations...
Ah, je suis tout à fait d'accord.
Ah,
non, d'accord. Non, mais il faut le faire, mais il faut continuer à investir dans ce qui nous permet de rouler au quotidien.
D'accord. Mais néanmoins, les investissements, ça se compte entre 2 et 4 points de PIB, donc c'est énorme. Des investissements aussi, on voit que les investissements vont être importants dans le domaine du militaire. On voit que cette année, les investissements militaires en Europe ont explosé.
Merci à la guerre en Ukraine.
Merci. Bah, la guerre en Ukraine a obligé l'Europe à reconsidérer sa stratégie militaire. Et la hausse qu'on a en Europe, je pense l'Europe au sens large, a été la hausse en dépenses militaires la plus forte depuis la guerre froide. Et cette tendance va continuer. Donc, intervention des États, des dépenses en investissement qui vont être fortes pour financer la transition énergétique, pour les dépenses militaires.
Donc, un monde avec de la croissance, le monde d'après ?
Un monde avec de la croissance, mais aussi un monde avec des coûts plus élevés.
D'accord, donc avec de l'inflation, on va en parler tout à l'heure.
Avec de l'inflation.
Mais déjà, sur la croissance, vous êtes persuadé, on peut tous se tromper, c'est pas grave, on le repassera, on le mettra dans un bêtisier si vous avez dit des bêtises dans 2-3 ans, mais vous êtes persuadé qu'on aura de la croissance. On va pas revenir au monde d'avant le Covid, où on avait une croissance molle et on avait des unes de journaux sur le monde à croissance zéro.
C'est un monde où on aura plus de croissance parce qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'investir.
D'accord, mais ça, par rapport à ce que vous dites sur la nouvelle mentalité, le ESG et autres, la planète, je veux dire, c'est pas contradictoire, plus de croissance ?
Bon, ça dépend dans quoi est-ce qu'on investit, hein ? Donc, si on investit pour évoluer vers une économie décarbonée, c'est pas forcément négatif pour la planète. Mais ce qui est très amusant de voir, et c'est depuis la période du Covid, la consommation aujourd'hui s'oriente beaucoup plus vers les biens que vers les services. Donc, jusqu'ici, on n'est absolument pas,
on n'évolue pas dans
une économie qui est plus verte. Aujourd'hui, les ménages, par rapport à l'avant-Covid, consomment beaucoup plus de biens.
Christopher Dembick, qu'est-ce qui a changé ? Et à quoi va ressembler l'économie dans le monde d'après ?
Ce qui a changé, c'est finalement, la Covid a été un accélérateur. Mais si on se porte sur 10 ou 15 ans, il y aura deux enjeux qui seront principaux. C'est un, est-ce qu'on aura réussi la transition écologique ? Est-ce qu'on a les moyens, surtout de réussir ? Puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le discours. Je vais revenir dans un instant. Et le deuxième levier, c'est la souveraineté technologique. Finalement, c'est les deux principaux enjeux si on se porte sur un horizon de 10 à 15 ans. Sur le premier, sur la transition écologique, bien évidemment, il va falloir investir. Bien évidemment, il y a tout un discours qui est derrière cela. Mais quelles sont les réalisations concrètes qui sont mises en face ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on sécurise les chaînes d'approvisionnement sur les métaux, les terres rares aujourd'hui ? Pas du tout. Donc c'est très bien, vous parliez par exemple de l'automobile, c'est très bien de vouloir sortir des voitures thermiques, peu importe l'horizon, 2035.
Moi, j'ai pas dit que c'était très bien.
Je sais.
Ça, c'est vous qui le dites.
Oui,
okay.
J'ai un avis plus mitigé, vous allez voir. Mais la réalité, donc, il faut des voitures électriques. Aujourd'hui, les batteries, qui les fabrique ? Les 10 principaux constructeurs mondiaux, les 6 premiers, ce sont des Chinois. Et parmi ces 6 premiers, 50%, deux entreprises détiennent 50% des parts de marché. Concrètement, on a des objectifs sur du long terme, mais on n'a pas les moyens, au niveau de la transition écologique, de parvenir à faire ces objectifs.
On les a. On a vu qu'on a dégainé 400 milliards aux États-Unis pour.
Aux États-Unis, mais en Europe, ça
d'accord,
sera
là,
beaucoup
vous parlez de l'Europe.
Oui, plus ce côté européen.
Mais l'Allemagne a les moyens de le faire. Elle va le faire.
Par exemple sur la sortie du charbon dans 7 ans,
je suis
très dubitatif sur cette capacité à y parvenir.
Je vais pas prendre le pari, moi.
D'accord, mais vous êtes toujours fan de l'Allemagne.
Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une dette qui est 65% du PIB,
oui, mais
monter à 130%.
Oui, mais il n'y a pas que l'aspect dette aujourd'hui, et il n'y a pas que l'aspect investissement. C'est-à-dire, il y a quand même une grosse partie de la transition écologique où vous êtes sur une bulle, et concrètement, ça va pas créer de la croissance. Si vous discutez avec des entreprises dans le secteur de la transition énergétique, il y en a plein qui sont très sceptiques sur l'hydrogène vert. Mais elles vous disent, et vraiment des grandes entreprises françaises, elles vous disent, on y va, parce que c'est une course aux subventions. On sait très bien que derrière cela...
Parce qu'il y a un plan hydrogène et il faut récupérer l'argent.
Voilà, on récupère l'argent, on va la louer peut-être en grande partie sur ça et sur d'autres projets qui sont un peu plus orientés business, mais on ne va pas y parvenir. Donc, il y a beaucoup de discours pour politique et je suis certain qu'en 2030, on n'aura pas atteint les objectifs en termes de transition écologique.
Est-ce qu'on va vers un monde avec de la croissance ?
Bah, comme je vous dis.
Et quel type de croissance ?
Est-ce qu'on est
sur du 2% ? Est-ce qu'on est sur du 4 ? Est-ce qu'on est sur du 1% ?
Alors, si le scénario, c'est qu'on investit beaucoup dans la transition écologique, mais que derrière cela, on a quand même un phénomène de bulle, donc on alloue très mal les capitaux, a priori, on n'aura pas une croissance qui va être extrêmement élevée. Donc, je reste assez dubitatif sur la capacité d'avoir un niveau de croissance important. Je reviendrai plutôt à des niveaux de croissance qu'on a connus avant Covid.
C'est-à-dire
avec une 2%.
Mondial.
Au niveau mondial, avec une très mauvaise allocation du capital, parce que finalement il y a cette course aux subventions, et derrière ça on vérifie pas. Regardez de très près sur l'éolien, sans discuter est-ce que c'est pertinent ou pas, mais sur l'éolien aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a même pas sécurisé les chaînes d'approvisionnement, qu'on n'a pas sécurisé tous les problèmes au niveau de corrosion de l'éolien, donc sur un horizon de temps très court, ça va être très compliqué à atteindre.
quels enseignements vous avez tirés de tout ce qui vient de se passer et qu'est-ce que vous voyez pour la croissance dans le monde d'après?
Je voulais juste rebondir sur un élément, c'est la dépense publique, parce que c'est un élément important. Si on revient un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que effectivement les grandes crises sont des facteurs d'augmentation de la dépense publique. Oui. Avant la Première Guerre mondiale, on était à 12 points de PIB de dépense publique. Oui. D'accord, on invente l'impôt sur le revenu pendant la Première Guerre mondiale, on monte à 30 points. Oui. Puis avec point carré, on descend. Seconde Guerre mondiale, on sort, on a 45 points. Puis on descend, on est à 30 points en 1960. Aujourd'hui, on est à 55 points. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une mainmise de l'État et par conséquent, un comportement sociétal qui est de plus en plus relié à l'État. Donc, je pense que la dépense publique, c'est un élément essentiel. Et par conséquent, je pense qu'il y a une mauvaise allocation.
Et par conséquent, j'aime bien avec tant d'arrêts très théâtral.
Je pense qu'il y a une mauvaise allocation du capital quand il va de manière prédominante vers l'État. Et on se retrouve aujourd'hui avec une dette mondiale qui est historique. On est à 270%. Et je vais répondre à votre question sur la croissance, par conséquent.
Quand vous aurez le temps.
On ne peut pas avoir une croissance forte avec un tel boulet, surtout avec des taux qui remontent. Alors, quand on parle croissance, moi je pense qu'il y aura effectivement de la croissance nominale, savoir que la croissance nette va être faible. On va être dans un monde, pour répondre à votre question, à croissance faible, mais il va falloir effacer justement cette ardoise progressivement. Donc il faut de la croissance, et cette croissance sera plutôt nominale, c'est-à-dire avec de l'inflation.
Christian Bito.
Marc, je vais casser l'ambiance. Qu'est-ce qui a changé avant, après le Covid? D'après moi, bien entendu, je parle d'économie et de finance, pas de ceux qui ont eu des crames à cause du Covid.
Christian.
Qu'est-ce qui a changé? Rien. Je prends le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, finalement, améliorait ses marges, sa profitabilité à cause de la concurrence internationale, de la mondialisation. Ça s'est arrêté parce que, je prends juste un exemple simple, le coût des transports était trop cher, il y a eu des restrictions, des fermetures de ports. Un conteneur pour faire venir quoi que ce soit d'Asie avant le Covid coûtait 2 500 $. C'est monté à 15 000 $.
Voire plus.
C'est redescendu aujourd'hui à 2 500 $. Ouais. Donc l'entreprise, on le voit dans les résultats, dans la croissance, ça n'a pas changé. Ensuite, je prends le monde de l'épargne. Le CAC 40 était au plus haut, il est encore à nouveau au plus haut. C'est-à-dire, on a un comportement des marchés qui reste le même.
Mais il y a des
prends l'épargne des particuliers, qui est le sujet qui nous intéresse. Avant, les particuliers vivaient très bien avec des taux d'intérêt nuls, en fait des taux négatifs. En 2019, on avait des taux d'intérêt sur les emprunts d'État à 0%, une inflation à 1%.
Oui.
Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à court terme à 3% et une inflation à 6%. C'est même encore pire. Donc moi, je pense que ce n'est pas le Covid qui a vraiment changé, et ça a été cité, ce qui est en train de se passer sur le plan économique mondial, c'est en fait 2008-2009. D'accord. C'est là où on a inventé quelque chose qui est le sous-jacent de ce que vous avez cité. Il y a beaucoup plus de déficit budgétaire, il y a beaucoup plus de dépenses d'État.
C'est le quoi qu'il en coûte.
Il y a beaucoup plus de dettes, mais c'est le quoi qu'il en coûte qu'on a inventé avec ce qu'on appelle le quantitative easing.
Ça, c'est un énorme changement, c'est ce que dit Valentine. Elle dit
oui, mais c'est 2008-2009.
D'accord.
Le thème, c'était le Covid.
D'accord.
C'est là où on a
dans
commencé
le monde d'après,
ça.
Qu'est-ce que la croissance?
Dans le monde d'après, une croissance positive, mais effectivement de l'ordre de 2-3%, parce qu'il va falloir, je pense, qu'on parle de la démographie. Ça a changé, ça nous a mis un coup sur la tête, le Covid.
Allez, la question spéciale, justement, on reste, et là je vais interroger surtout les économistes, parce que je vais essayer d'avoir une vision un peu planétaire. Dans le monde d'après, l'inflation et les taux d'intérêt. Valentine, ça c'est votre dada, vous allez dire que dans le monde d'après,
il y aura
de l'inflation.
Exactement.
Et moi, je vous dis que dans le monde d'après, on sera en déflation. Alors, allez-y.
Exactement. Dans le monde d'après, il y aura de l'inflation. Déjà, on voit des hausses de coûts de production. Si on passe à des coûts sur l'énergie renouvelable, ils sont beaucoup plus importants que les coûts de l'énergie fossile. Après, on a parlé de l'investissement en capital, mais on n'a pas parlé à la question précédente de l'investissement au capital humain. Et je pense qu'il y a une des choses quand même que le Covid a changé, c'est le comportement des salariés par rapport à la valeur travail. Et ce qu'on observe, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est une pénurie sur le marché du travail. Ouais. Mais pour des raisons...
temporaires, conjoncturelles.
Pas forcément.
Quand ils auront besoin de manger, ils viendront retravailler.
Ouais, eh ben on va voir. Aux États-Unis, qui a quitté le marché du travail? Ce ne sont pas forcément les gens qui ont besoin de manger, etc. Ce sont les plus de 55 ans qui ont profité de la hausse du prix des actifs. Et qui ont pu... Oui, c'est pas conjoncturel.
Ben si, c'est conjoncturel. C'est parce que et on a eu le contraire en 2008 et 2009. Ils étaient ruinés parce que leur plan de pension ne valait plus rien. Ils sont tous remis à bosser. Ils ont bossé jusqu'à 70 ans. Donc c'est conjoncturel.
Si on doit financer tous ces investissements, ça veut dire qu'on va devoir, qu'ils ne sont dans un premier temps absolument pas productifs, ça veut dire qu'on va devoir maintenir les taux d'intérêt réels en territoire légèrement négatif. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour la valeur des actifs. Donc tant qu'on est sur cette dynamique-là...
Inflation,
Non, pour l'instant, je dis pénurie.
Dans le monde d'après, inflation.
Je dis inflation. Je dis pénurie sur le marché du travail aux États-Unis parce que les plus de 55 ans quittent le marché du travail et aussi parce qu'on a moins de flux migratoires. Faudrait déjà qu'il y ait une correction forte sur le prix des actifs. Et en Europe, parce qu'on a une forte baisse de la productivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis 10 ans et qui s'est accéléré avec le Covid. Le nombre d'heures travaillées par emploi est en baisse en Europe. En France également.
On n'en parle pas. C'est dramatique.
En France également. Donc baisse, ça veut dire pénurie sur le marché du travail, un coût du travail qui augmente.
Vous oubliez, bon, on va en parler tout à l'heure, vous oubliez toutes les avancées, la digitalisation.
Si.
On en parlera tout à l'heure.
Non, coût du marché du travail et aussi des coûts de matières premières. Donc les coûts sont augmentent en Europe et vont soutenir
l'inflation. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, ce qui est très bien.
C'est pas grave.
Au contraire, Christopher.
J'aurais tendance à considérer que ce sera plutôt inflationniste, mais effectivement, il y a des tendances qui seront plutôt déflationnistes, donc ça va être dur de faire la part des choses.
Il va falloir le faire.
Comment ?
Il va falloir le faire.
Tout à fait, mais je vous ai dit, j'aurais plutôt tendance à considérer que ce sera inflationniste. Vous allez avoir sur les matières premières, indéniablement aujourd'hui, ce sera inflationniste. Il suffit de regarder, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le cuivre est l'une des matières premières qui est la plus demandée sur le long terme. Le problème, c'est qu'on sait que les mines d'accès au cuivre, facile d'accès, c'est épuisé. Donc, ça veut dire qu'il faut investir. Je crois que Goldman Sachs nous publie une étude sur 10 ans, il faudrait 300 milliards, ce qui est énorme. Mais disons qu'on met les 300 milliards. Est-ce que vous pensez que politiquement, l'ouverture de mines très polluantes, ça va passer facilement? Donc il y aura cet aspect en tout cas sur l'accès aux matières premières qui va être essentiel sur la transition, ça va être un vrai problème. Pareil pour les matières premières agricoles. De l'autre côté, effectivement, et là où j'aurais un point de divergence, c'est qu'effectivement peut-être...
Avec qui ?
Avec vous, tout simplement sur le marché du travail. Effectivement, sur du court terme, on va avoir cet aspect pénurie, je crois que c'est par exemple pour l'Allemagne.
Conjoncturel.
Ce serait plus conjoncturel dans le sens où je suis convaincu que les hausses de salaire qui auront lieu du fait de la sortie, notamment en Allemagne, je crois que c'est 300 ou 350 000 personnes par an qui vont sortir à partir de 2025, ça va être un certain stade, alors peut-être pas immédiatement, mais à un certain stade, ça va être compensé par les innovations technologiques. Donc, ça va être plutôt conjoncturel sur la durée, entre guillemets, ça va durer quelques années, mais je pense pas que sur du 10 ans, on aura des hausses de salaire.
Quand vous dites inflation, pour qu'on sache de quoi on parle, c'est quoi un niveau d'inflation ? Quand vous dites, Valentine, il y aura de l'inflation, c'est quoi ? Juste un chiffre ?
2-3% au-dessus.
D'accord. Louis, vous avez un truc à dire, c'est pas votre parti, mais allez-y.
Non, mais sur les taux d'intérêt, puisque
les
gens n'en ont pas parlé, moi je pense que les taux d'intérêt ne pourront pas rester élevés. D'abord, ce qui compte avant tout, c'est les taux longs. Le taux à 10 ans, donc c'est pas les taux que les banques centrales augmentent ou baissent conjoncturellement. Les taux longs ne peuvent pas être supérieurs à la croissance nominale de l'économie. Donc si on pense que il va y avoir une économie qu'il va y avoir une économie faible, et on le voit d'ailleurs, l'effritement des taux longs aux États-Unis, à ce moment-là, on aura des taux longs qui sont relativement bas. D'accord. Les banques centrales ne peuvent pas maintenir une inversion de la courbe des taux sur une longue période, c'est-à-dire des taux courts qui seraient plus élevés que les taux longs, parce que sinon, le travail des banques de transformation de l'argent ne peut pas fonctionner. Donc, par construction, avec le niveau d'endettement qu'on a aujourd'hui, les taux doivent rebaisser à un moment ou l'autre rapidement.
S'il n'y a pas d'inflation.
Je pense que justement, on va être obligé de rester avec un niveau d'inflation pour effacer un bout de la dette.
Une seconde, vraiment.
Une seconde. Ce qu'on voit se dessiner, c'est pénurie sur le marché du travail, même si c'est temporaire et ça peut être après gagné avec des gains de productivité, pénurie de marché sur les matières premières, mais aussi une pénurie en termes d'investissement, en termes d'épargne. Il va falloir énormément d'épargne pour tous ces investissements. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui va pousser les taux à la hausse. Après, quel comportement des banques centrales s'il y a les taux trop hauts, parce qu'il y a des risques sur la solvabilité de la dette. Et là, on va pour moi être dans cette équation-là, dans le monde d'après.
Ils vont balancer
le chiffre spécial, c'est la population en 2050. Une nouvelle étude montre que dès 2050, la population de la planète va diminuer. Un retournement complet de tendance, un changement complet de paradigme. La population commence déjà à diminuer, évidemment. Au Japon, ça fait un moment. En Chine, je vous rappelle que l'Inde a dépassé la Chine et que ça va s'accélérer. Vous parliez tout à l'heure, Christian Bitteau, de la démographie.
Oui, on s'habitue au confort. Alors, est-ce qu'on va suivre le modèle japonais, qui est le pays qui a pris le plus d'avance dans le vieillissement de sa population, avec deux facteurs qu'il faut bien distinguer, ce qu'on appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire aujourd'hui, les populations de classe âgée sont plus importantes que les jeunes, et donc ça vous donne une pyramide inversée. Alors
on vend plus de couches pour les vieux.
La pyramide
que pour
des âges, on la voyait, elle était comme ceci.
Je le répète,
vieux plus de jeunes.
Vous connaissez bien le sujet.
Et oui. Et puis le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme qui permet une une population de rester à son niveau ou de baisser. C'est 2,1. En France, on vient de baisser, on est encore à 1,8. Mais on est parmi les meilleurs pays au monde en termes de taux de fécondité.
En Corée du Sud, 0,78.
Donc, donc ça veut dire qu'on va vers une diminution de la population mondiale. Oui. Est-ce que ça impacte l'activité économique, les marchés financiers? Ça va être difficile à mesurer. On constate qu'effectivement, au Japon, ils ont pris l'habitude d'être très contents, les épargnants japonais, en achetant des obligations à moins 0,10%, moins 0,20%. Bon. On constate un appétit effectivement plus faible, ça on le sait, les banquiers privés, quand on a des clients particuliers, quelqu'un de plus jeune a envie, on lui conseille d'investir à plus long terme, donc s'intéresse aux actions. Quand on se rapproche de la retraite, effectivement, on préfère assurer avec une attitude de rente. Est-ce qu'on peut néanmoins en tirer une règle? La Chine, pour contre-exemple, la Chine, ça y est, sa population est en train de diminuer. Son taux de fécondité par femme est, s'il est bien mesuré, de 1,1, je crois, un 40. Donc ça y est, ça, en Chine, le facteur se produit. Pourtant, la locomotive de la croissance en 2023, c'est la Chine. Donc on ne peut pas dire qu'un vieillissement de la population...
Pas tant que ça, on était à 10%, on était à 8%,
oui,
maintenant
mais
on va
la locomotive par rapport aux autres. On n'aurait pas le plus 5 chinois décidé et mis en œuvre par la Banque Populaire de Chine, par les autorités
chinoises. Donc vous dites que ça va peser sur la croissance.
Donc ça devrait peser sur la croissance, mais ça n'est pas une règle absolue. Il faudrait plusieurs générations pour le mesurer.
C'est là où peut-être qu'on n'est pas d'accord, parce que je pense que sur la démographie, Valentine, bon, vous pensez qu'il va y avoir un déséquilibre, hein, du fait notamment de la baisse de la démographie. Moi, je pense que la révolution technologique va contrebalancer ça de façon spectaculaire.
Alors, si on regarde, je partage ce point de vue, si on regarde empiriquement, c'est désinflationniste quand même. Quand la population vieillit, on a moins envie de consommer.
On a quand même un labo qui est le Japon.
Si on regarde le Japon, quand on vieillit, on a moins envie de consommer, baisse de la demande, baisse de l'investissement, baisse du prix des actifs parce qu'on vend pour financer sa retraite. Donc, il y a ce schéma où on dit le vieillissement de la population s'accompagne de moins de pression de pression désinflationniste. Après, est-ce que c'est le facteur qui va l'emporter il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans le monde d'après. Il y a ce vieillissement de la population, mais on a aussi le facteur qui va l'emporter, c'est les besoins de financement pour ce monde d'après, pour cette transition écologique.
Mais la révolution industrielle, l'intelligence artificielle, la robotique, c'est majeur, non?
Ça va être majeur, ça va permettre des gains de productivité. Et ça
va pas contrebalancer
les... Ça peut contrebalancer les pressions inflationnistes. Et le sujet, c'est que ça va pas forcément être linéaire ni homogène entre les zones économiques. Et c'est là où ça va être intéressant pour les investisseurs. C'est que cette idée d'améliorer les gains de productivité, ça va pas être forcément quelque chose de linéaire dans le temps. Donc on peut avoir un moment des pressions inflationnistes découvertes, surtout si on arrive à rabaisser très fortement le prix de l'énergie. Et ça va être des gains de productivité formidables, etc. Mais donc pas forcément linéaire et surtout pas forcément homogène sur les zones. Et les gains de productivité de demain, c'est les investissements d'aujourd'hui.
Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Démographie contre digitalisation, intelligence artificielle, qui va gagner?
Je pense que ce qui va être extrêmement important dans les années à venir, et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire que la révolution industrielle qui a lieu avec la robotique et l'intelligence artificielle, elle va pas avoir lieu à la même vitesse partout dans le monde, parce que vous avez des facteurs culturels d'adhésion. Par exemple, effectivement, en Chine ou au Japon, on a une adhésion beaucoup plus rapide à ce type de sujet. En Europe, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous avez une étude qui a été publiée il y a 3 semaines de Stanford, qui vous montrait qu'effectivement, donc, qui comparait une myriade de pays, et sur tous les sujets sur l'intelligence artificielle, l'ouverture d'esprit, la capacité à comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, la capacité aussi à l'intégrer dans les organisations, parce que la réalité, c'est comment on intègre dans les organisations que sont les entreprises, c'est beaucoup plus grand aux États-Unis qu'en Chine. Donc là, il y aura effectivement un effet accélérateur, c'est positif notamment pour la Chine, puisque effectivement, du point de vue démographique, il y a un vrai sujet qui est immédiat, mais par exemple, pour l'Europe, ça va être quand même très très compliqué. C'est pour ça que au niveau global, ça va être très dur de mesurer, et vous allez avoir des zones où l'intégration notamment de l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de temps. Si vous regardez par exemple ce que fait l'Europe aujourd'hui, on fait de la réglementation. Et Thierry Breton, fièrement, nous a dit, après 2 ans de travaux, on réglemente quelque chose dont on n'a pas une complète visibilité en termes d'usage. Les Américains font l'inverse, on met énormément en termes d'investissement, mais vraiment beaucoup. On va permettre d'avoir de l'innovation et derrière cela, on espère avoir effectivement un vrai impact. Donc, il y aura dans tous les cas, en termes de gains de productivité, en termes d'avance technologique, l'Europe sera en retard. Je vous donne juste, si vous me laissez deux minutes très rapidement.
Deux minutes, c'est sûr que non, je ne les ai pas.
Une minute. Sur les ultrasons, on les découvre en 1911. Les ultrasons, donc d'abord pour les sous-marins, et ensuite, vous avez plusieurs applications. Dans les années 50, on tente vainement dans la lutte contre le cancer, et à partir des années 70, on le sait, on le tente justement avec succès dans l'obstétrique. Imaginez que vous ayez le régulateur européen qui vous vienne voir ses ingénieurs en 1911 et qui vous dise, finalement, on va réglementer très strictement. indéniablement, on n'est pas en mesure de savoir ce qui va se produire sur les innovations technologiques. Donc c'est un frein supplémentaire qui s'ajoute à l'aspect culturel et au frein au niveau organisationnel.
Donc on a vu le monde d'après sur l'économie, le monde d'après sur les taux d'intérêt, le monde d'après sur l'inflation. On va parler maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, des marchés et des investissements.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on continue à parler, nous, avant que ça démarre, avant qu'il y ait le jingle, on continue à parler parce que Louis de Montalembert est très obsédé par la dette, hein, c'est ça,
oui,
c'est votre...
Que...
Vous pensez que c'est ça qui va... Non, mais sérieusement, qui va driver, enfin, qui va peser...
C'est un problème qu'on ne pourra pas pousser devant nous éternellement. Et donc, on voit bien que dans les périodes historiques, quand il y a eu des dettes très importantes, on en est ressorti à l'inflation, c'est-à-dire à la croissance nominale, pour pouvoir réduire le stock
donc
de dette.
Donc, vous, c'est la dette. Christopher Dembick, aujourd'hui, son obsession, c'est les matières premières.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, hein,
ouais.
Christian Bito, lui, c'est toujours la même. Pour l'instant, franchement, bravo.
Le rôle des banques centrales.
Ça
va devenir clé dans
les lunettes roses.
Les années à venir.
Et Valentine, c'est évidemment l'investissement dans la transition énergétique et le fait que l'inflation va rester assez élevée. Je vous propose là aussi de dézoomer. On ne regarde pas ce qui se passe en ce moment sur les marchés. On va se projeter 2024-2025, avec tous les événements qu'on a vécu, avec le niveau des taux d'intérêt, les bourses, il y a plein de gens qui disent, même si on a des corrections, c'est délirant, quoi. Moi, je croise des gens qui me disent, mais qu'est-ce que fout le CAC à ces niveaux-là, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt, et puis il y a des gens qui vous disent, vous avez rien compris. En fait, il faut regarder les valorisations, et puis quand on regarde les valorisations avec la croissance, on a des entreprises qui sont pas très chères, finalement. On assiste quand même aussi à une hyper-concentration, c'est-à-dire que derrière l'écran de fumée, des 20 valeurs qui tiennent, ou 10 valeurs qui tiennent le CAC 40, le luxe et le pétrole, derrière les 10% de valeurs qui tiennent le S&P 500, c'est un désastre, et c'est un désastre notamment sur les valeurs petites et moyennes. Dans le monde d'après, Louis de Montalembert, là vous allez pouvoir parler, dans le monde d'après, où doit se situer la bourse? Plus haut, plus bas?
Alors d'abord, je voudrais effectivement abonder dans ce que vous dites, c'est-à-dire que les indices ne sont pas représentatifs de l'économie. On ne peut pas faire une homothétie et dire...
Ni même de la bourse.
Alors, ni même de la bourse. Mais déjà en bourse, on a des entreprises qui ont un certain niveau de performance par rapport à l'économie. Je veux dire, il n'y a pas les boulangers, il n'y a pas les restaurants, etc. On a vraiment une concentration économique qui n'est pas une reproduction fidèle de l'économie. Donc, ça dépend effectivement de la qualité des entreprises dans lesquelles on investit. Et moi, je pense structurellement qu'on sera plus haut. Parce que historiquement, les actions ont démontré que c'était le meilleur actif sur le long terme. Donc, vous me donnez un petit peu de distance et non pas les 2-3 semaines.
Je vous donne le temps d'un règne.
Mais on est sur une grande mutation. On est sur une grande mutation économique et ça, il faut jamais minorer le fait que certaines entreprises vont tomber. Je veux dire, Kodak était une star quand on était jeune. BlackBerry a été formidable, etc. Donc, on est dans une mutation et par conséquent. Lorsque l'on investit, il faut se poser la question des changements économiques profonds qu'on est en train de traverser. On en parle sur la transition énergétique, sur la technologie. Et par conséquent, aujourd'hui, dans une logique d'investissement, ça n'est pas seulement la bourse va être plus haut, ça va être certains acteurs vont amener effectivement probablement les indices plus haut, et certains vont disparaître, vont se déliter, vont sortir.
Donc vous dites quoi? Vous dites plus haut si on investit sur les secteurs qui vont bénéficier de toutes les transitions dont on a parlé.
Oui, je pense que là, il y a vraiment une question d'investir dans l'avenir. Là, je pense
donc
que...
les transition énergétique.
Ouais,
mais d'un autre côté, Christopher Dembick vous dit on investit en transition énergétique, mais on ne sait pas sur quoi on investit. Il y a la moitié des boîtes qui vont disparaître et il y a peut-être des technologies qui ne vont même pas résister.
Oui, donc je ne dis pas que c'est un exercice facile, il vaut mieux confier son argent à un professionnel.
D'accord, transition donc... technologique aussi, digital.
Évidemment.
évidemment, ça c'est celle sur laquelle vous vous êtes
positionné.
Et là où
je voudrais rebondir sur ce que disait Christopher tout à l'heure sur l'adoption de l'IA, en fait l'IA est dans la tuyauterie. Je ne pense pas que les Européens ont tellement besoin de se soucier de savoir s'ils veulent adopter l'IA.
C'est comme l'Internet quoi.
Moi, on l'utilise aujourd'hui, mais même dans des logiciels qu'on utilise, quand demain on aura Windows
Demain Copilot, Word intégrera...
Windows Copilot, on utilisera l'intelligence artificielle. Donc on va tous bénéficier, peut-être pas des profits issus des sociétés qui ont créé l'intelligence artificielle, mais au moins des outils.
Quand vous regardez, vous mettez vos lunettes rouges et vous regardez très loin.
Là,
vous
voyez, il faudrait des jumelles. Si on regarde à 10 ans, 20 ans, 30 ans...
Est-ce que vous avez des jumelles roses?
Je vais en fabriquer spécialement pour l'émission, parce qu'à 30 ans, pour le moment, la seule solution qu'on puisse dire, nous, avec le recul, en regardant tout ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle, c'est que ce sont tout de même les actions qui permettent de faire mieux que l'inflation et de s'en sortir pour son patrimoine. Toutes les études le montrent.
C'est une rengaine, ça.
Les actions, mais alors il faut attendre 10 ans, 20 ans.
C'est une rengaine, oui, d'accord.
Mais vous l'avez cité, c'est tout de même ce qui marche
le mieux. Le mec qui dormait sur les actions de chemin de fer, à qui on a dit, il faut garder ces actions-là pour la durée. Il peut s'allonger devant un train pour se faire découper.
C'est ce qui fait nos métiers. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de portefeuille.
Non, mais c'est ça, mais il faut le dire.
Parce que c'est pas aussi facile que ça.
Parce que ce que disent les gérants quand les gens vous écoutent, c'est prenez les actions et gardez-les. Ah ouais, d'accord. Le gars qui a des Kodak, le gars qui a des compagnies, qui a du Alcatel, qui a du... Bon, IBM, encore.
Il faut gérer un tout petit peu, tout de même. Il faut justifier notre position. Il faut même justifier la thématique de nos émissions.
Mais il faut le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement... Il faut acheter une action et la garder.
La composition des indices change.
Évidemment.
Et le deuxième point sur les thématiques, effectivement, qui sont les thématiques d'avenir.
Attendez, vous dites plus haut dans le monde d'après.
Oui, bien sûr, plus haut dans le monde d'après. Si on est d'accord sur une inflation qui va être de 2-3%, une croissance en termes réels, et on est assez ténu tout de même de l'ordre de 2-3% de croissance réelle de l'activité économique, les bourses vont continuer à grimper, puisque de toute façon, les banques centrales sont là. Maintenant, on le sait, la Grèce, la faillite de Lehman Brothers, les problèmes de crédit suisse...
Elles sont là tant qu'il n'y a pas d'inflation.
Sont tout le temps.
C'est elles qui nous imposent de
revenir vers ce 2-2,5% d'inflation.
Okay,
donc maintenant, les banques centrales nous dirigent, très clairement.
Valentine, vous avez quelque chose
à dire? Oui, je pense que si on regarde le panorama... Si on regarde le panorama du monde d'après, ça veut dire qu'on va avoir, un peu d'inflation. On a des besoins d'investissement qui sont énormes et on a des niveaux de dette qui sont élevés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de maintenir les taux réels. Les taux vont augmenter, mais maintenir les taux réels en taux, un territoire légèrement négatif. Et cet environnement est extrêmement positif pour les actions.
Donc vous êtes aussi très positif pour les actions dans le monde d'après.
Dans le monde d'après.
Oui, je parle pas...
Il peut y avoir
une correction de 20%.
Dans le monde d'après, c'est un environnement qui est positif pour les actifs risqués, oui. Si on maintient les taux réels en territoire légèrement négatif, oui.
Et est-ce qu'on va continuer, Christopher Dembick, sur cette hyper-concentration? Parce que moi, ce qui m'a frappé quand même depuis quelques années, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est winner takes all. Alors, il y a plein de gens qui grappillent autour et qui donnent des services et qui... Mm-hmm. Mais en fait, la création de richesse, c'est LVMH, c'est Apple, c'est Google, et le reste, c'est les miettes, quoi.
Il y a deux leçons qu'on peut tirer outre ce qui a été évoqué et que je rejoins. La première leçon, c'est tout simplement la purge du fait de la hausse du coût du capital. On le voit très bien, ça se passe à l'heure actuelle. Je vais pas endosser le rôle d'Eric Lewin, mais sur les small et les mid-cap.
Surtout pas, vous êtes pas assez bronzé pour ça.
Exactement.
Et vous avez pas de Berluti. Donc
non, je n'ai pas de Berluti, pas encore. Peut-être quand je serai plus âgé.
Ça casse.
Non.
Et quand vous aurez plus de cheveux. La balle au centre.
Voilà.
Je lui dirai,
Ouais, en plus, il regarde l'émission, je pense.
Non, je pense pas. Il regarde que quand il passe.
Bon. Alors, donc, la purge sur les small et les mid-cap, elle va se produire. En revanche, vous allez avoir d'autres... Typiquement, les biotech, où vous avez eu pouvoir lever de l'argent de manière très aisée ces dernières années, on voit que ça devient compliqué. En revanche, il y aura quand même d'autres bulles. Et sur la transition écologique, je pense que ça va être très dur de savoir quels vont être les gagnants, quels sont ceux qui vont s'en sortir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous m'avez déstabilisé.
Non, mais la question que je vous pose, c'est cette hyperconcentration, est-ce qu'elle va continuer?
Oui, je pense qu'effectivement, il y aura encore cette hyperconcentration, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une incapacité à savoir ce qui va se passer, à se projeter en tant qu'investisseur sur du long terme. Alors bien sûr, je rejoins la vision, les marchés actions sont pertinents, mais je vais vous donner un exemple. Début d'année, qu'est-ce qu'on nous disait? Alors, vous aviez effectivement, on vous disait, la Chine, c'est la réouverture, il faut absolument aller sur les actions chinoises. bah, les actions chinoises, si vous regardez...
Elles sont pris en... un pain depuis le 18 avril.
Et si vous convertissez le, avec l'effet, sans l'effet taux de change, c'est encore pire. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a, on va vers ce qui est le plus liquide, ce qui fonctionne aujourd'hui. Et typiquement, vous voyez, moi, quand je vois des clients, bah, c'est pas très original. Je leur dis depuis le début d'année, bah, le luxe, effectivement, ça fait partie, si vous faites du stock picking, c'est intéressant, ou vous allez sur l'ETF, etc., à des sauts 440.
Il faut continuer là-dessus.
Il faut continuer sur ça. Ça sert à rien d'aller vers l'originalité quand on n'a pas d'éléments supplémentaires.
Justement, vous allez choisir un peu les pépites. On va parler de comment placer son argent, mais vous choisissez les pépites, notamment dans le cloud, c'est votre spécialité, de vos spécialités, Louis de Montalembert. Mais vous voyez, quand on a vu, par exemple, l'intégration de l'IA dans Microsoft, le cours de Microsoft a pris 9%. On se dit, mais pourquoi s'emmerder à aller chercher une pépite dans l'IA dont on sait que 9 sur 10 vont se casser la figure? On continue avec Microsoft, quoi.
Non, parce qu'en fait, et je voulais rebondir sur ce que disait Christopher tout à l'heure, c'est qu'on est dans les vagues d'innovation technologique. Normalement, c'est des nouveaux entrants qui disruptent les anciens acteurs. Oui. Et là, on est dans une vague qui est totalement nouvelle, c'est que c'est effectivement les géants de la tech qui disruptent le secteur.
Mais aujourd'hui, pour disrupter, il faut être extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'en fait,
pas uniquement. Notamment dans la cybersécurité, vous avez des acteurs qui ont émergé ces dernières années de zéro quasiment. Je parlerai tout à l'heure de CrowdStrike, mais qui ont émergé de zéro en 3-4 années.
Et qui valent combien?
Qui ont déplacé, pardon?
Qui valent combien aujourd'hui?
27 milliards.
D'accord. Non, mais c'est énorme. Mais 27 milliards par rapport à 1000 ou 2000 milliards, c'est zéro.
Mais on est au début de l'histoire. Alors, je serai là pour vous dire qu'on est au début de l'histoire. Que Microsoft Defender, toute leur partie. Non, ils n'arrivent pas. Ils ont Microsoft Defender. Non, mais on a Snowflake qui est apparu de nulle part et qui disrupte AWS, Azure, etc. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord, on est tous obnubilés par ChatGPT, mais il faut savoir qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent sur des modèles d'intelligence artificielle.
Y compris Google.
Et que derrière, OpenAI, d'abord, c'est pas que Microsoft. OpenAI et l'IP appartient à une association. Ouais. Et que derrière, ce qui est très intéressant sur toutes les entreprises sur lesquelles je travaille, c'est finalement ce qu'on appelle les API. C'est que on va prendre le modèle d'intelligence artificielle, on l'applique à un dataset. Mais même Airbus pourrait le faire. Airbus pourrait se dire, je prends l'ensemble de mes procédures.
Mais ils vont le faire.
Et je crée un dataset.
Ils vont le faire.
Je mets tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est dans la tuyauterie.
C'est ça.
Donc, oui, mais il faut pas être.
Oui, mais si c'est dans la tuyauterie, la valeur, elle est pas dans le tuyau. La valeur, elle est dans l'utilisateur du tuyau.
Non, la valeur, elle est dans les data, justement. Alors, elle est dans les data. Elle est beaucoup plus dans les data que dans l'outil.
Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important, évidemment. Moi, j'ai une question toute bête à vous poser. Comment placer son argent pour se positionner sur le monde d'après? On y a déjà un peu répondu. Moi, je sais ce que va me dire Christian. Il faut mettre 100% de son argent sur les actions. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on a des taux d'intérêt, des rendements à 4,5% ou 5% sans prendre trop de risques, j'ai envie d'en mettre un peu.
Oui, non, de toute façon, le bon sens et la réglementation nous imposent d'abord de savoir quel est le degré de risque qu'on accepte de prendre. Alors, pour les jeunes, oui, effectivement, aujourd'hui, on est assez positif sur les actions.
C'est-à-dire quelqu'un qui a 25-30 ans, vous lui dites 100% en actions.
Bien sûr. Oui,
il faudra.
Non, mais c'est à lui de l'accepter, ça. Ensuite, il faut lui expliquer ce qu'on risque de perdre. On va avoir des journées boursières à moins 3%. Ah. Est-ce qu'il le supporte? Est-ce qu'il le supporte pas? Mais à long terme, effectivement, c'est l'action. C'est l'action.
Vous avez une classe d'actifs
par rapport
qui est revenue
à l'année dernière. Ce qui est génial,
la classe d'actifs qui est revenue.
Ça y est, Marc, vous rentrez dans ce que je voulais dire. C'est la grande nouveauté de cette crise. Au moins, il y en a une. C'est que l'illusion monétaire est revenue.
Ah oui.
Ça fait remonter, ça remonte à longtemps. L'illusion monétaire, c'est on affiche le livret A en France à 3% et 20 milliards d'euros se précipitent dessus.
Mais tant mieux. Parce l'illusion que ces 20 milliards d'euros. Non, attendez, vous savez où ils étaient ces 20 milliards d'euros? Ils étaient sur des comptes en banque à zéro. Donc c'est mieux 3% que zéro.
Oui, mais on est d'accord que ça n'est pas efficace, puisque 3% sur un an contre 6% d'inflation, vous faites un place où vous précipitez, c'est l'illusion, parce qu'on affiche, c'est le taux affiché, 3% superbe.
Quand je prends une obligation à 5 ans, à 4,5%, alors, sur les 5 ans qui viennent, j'aurai pas de l'inflation à 4,5%.
On commence heureusement à retrouver des placements obligataires, notamment sur des signatures de belles entreprises qui sont plus intéressantes. Par rapport à l'année dernière, oui, ça redonne un tout petit peu de valeur aux supports dits sécuritaires. Enfin, l'année dernière, les supports sécuritaires, qu'est-ce qu'ils ont dégusté? Les obligations, moins 15, moins 20%. D'accord. Maintenant, on peut y revenir.
D'accord. Mais vous dites action, comme.
Surtout, c'est action. Mais il y a de l'illusion monétaire sur les actions aussi.
Je parle de ça parce qu'il a été traumatisé par la crise de la Signia.
Bien sûr. Et les emprunts russes. Bah, non, mais pour moi, c'était une hérésie. C'est-à-dire que quand vous dites 4,5%...
Vous ne pouvez pas dire ça.
Mais je vais vous le dire pourquoi. Quand vous dites 4,5% de rendement, d'abord, avec le taux d'imposition en France, c'est 3%. Effectif, parce que le taux d'imposition ne prend pas en compte l'inflation. Donc c'est 3%. Est-ce que vraiment à 5 ans, vous pensez, lissé sur 5 oui. ans, on aura moins en oui. moyenne que 3% oui. Admettons. Oui. Admettons qu'on est
2%. Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit 2%.
Admettons qu'on est 2%. Non, non,
moi, je suis ce que
non,
vous
non, dites. Moi, j'ai pas dit ça sur l'inflation. Si, non, non, j'ai dit inflation forte. Moi, je pense qu'on aura plutôt 3%.
Bon, moi, j'écoute Valentine.
Mais admettons qu'on est 2%. Ça veut dire que vous voulez gagner un point sur votre patrimoine par an.
Ça veut dire que j'ai sécurisé une partie de mon patrimoine.
C'est que vous êtes très riche alors.
Ou que Marc
les gens, mais pour les gens qui ont besoin de créer du revenu et du patrimoine, c'est pour moi une hérésie.
Donc vous dites quoi? Allez-y les gars, tout le monde en action, on
mais,
y va à fond.
Mais même c'est quand on est âgé, même quand on est âgé, pour moi la règle sur son patrimoine, c'est à partir du moment où on dépense moins de 4% de son patrimoine financier et qu'on cale sur cette discipline-là, on a toujours avantage à avoir des actions. Alors après, il y a la question de la volatilité. Mais effectivement, je pense qu'il faut des actions, mais j'ajouterais qu'il faut des thématiques. Ça, je crois fortement aux thématiques, parce qu'on est dans le monde d'après, qu'il y a des choses qui changent et qu'on ne peut plus rester sur la gestion à papa, action européenne, machin.
Valentine, vous voulez dire un mot? On n'a vraiment pas le temps.
Oui, on ne reviendra pas sur les taux qu'on avait avant le Covid. Il faut rappeler qu'avant le Covid, la moitié du marché euro fixed income était en territoire négatif. Donc ça, on ne revient pas là-dessus. Ça veut dire que le monde d'après, il y a des opportunités sur les actions, si on a des taux réels négatifs. Mais il ne faut pas oublier que le monde d'après n'est pas un monde linéaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir des épisodes inflationnistes, on va avoir des gains de productivité, on va avoir des opportunités sur les taux et sur les actions.
Vous dites on ne reviendra jamais sur des taux. Mon âge avancé me fait dire qu'il faut jamais dire jamais.
Non, je dis pas. Je dis le monde d'après c'est les 10%. Je pense que personne n'a envie de revenir sur les taux négatifs.
Le mot spécial, il va falloir qu'on bourre un peu. Mot spécial du monde d'après, pour vous.
Naïveté, tout simplement, parce qu'on pense pouvoir atteindre les objectifs de transition écologique extrêmement rapidement sans sécuriser les approvisionnements.
Mais personne n'y croit, je pense, tout le monde ment.
Le discours politique,
en fait. Oui, mais le discours politique, c'est toujours du mensonge. C'est comme quand Bruno Le Maire dit « je vais réduire mon déficit public », il sait très bien qu'il ne le fera jamais.
Ah oui, là,
il
certainement, ment. Sur cet aspect-là. Et sur la souveraineté industrielle, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais concrètement, vous allez avoir une loi réindustrialisation qui va être présentée d'ici l'été, et d'après ce que j'ai compris, on va beaucoup parler sur comment réduire la paperasse et non pas comment on va créer des filières industrielles.
Mais la réindustrialisation, elle a lieu aux États-Unis.
Elle a lieu avec grand succès.
Et elle va très très vite avec grand succès. On voit sur les semi-conducteurs, je suis fasciné par la vitesse à laquelle ça va. Le mot du monde d'après pour vous?
Logicialisation. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont devenir des entreprises de logiciels. Le premier client de GitLab, qui est un outil de codage, c'est UBS. Le deuxième, c'est Deutsche Telekom. 75% des entreprises du Fortune 500 sont clients de GitHub, qui est l'équivalent chez Microsoft. Coca-Cola est un des clients de GitHub. Donc
Ça n'en fait pas une boîte de logiciels.
Ça veut dire que toutes les gens d'entreprise sont obligés de logicialiser une partie de leurs activités.
D'accord.
Et par conséquent, mais avant, ces entreprises se faisaient appel à un Capgemini pour leur faire un applicatif. Aujourd'hui, ces entreprises, tous les gens qui ont été licenciés des grandes techs aux États-Unis ont été recrutés par des Walmart de ce monde, par des FedEx, pour fabriquer leurs propres applications.
Et pourtant, toutes les boîtes de services informatiques cartonnent encore.
Oui, mais parce qu'il y a des besoins qui sont absolument gigantesques. D'accord. Les gens en cybersécurité sont en burn-out aujourd'hui.
Tristan Bitot. Le mot spécial monde.
Oui, le mot. Nous avons connu le virus et maintenant nous avons la virus. Et donc pour moi, le mot d'actualité encore en ce moment, c'est la virus, c'est-à-dire l'invasion en Ukraine et le risque. Ah bah oui, virus.
J'avais pas compris.
Et oui.
Bravo.
Et le risque que se dessine un axe Russie. Chine, avec la remontée d'un mur, et donc tout ce que l'on dit sur le commerce international, sur la reprise d'activité,
c'est comme la menace nucléaire, c'est-à-dire on a chacun l'arme nucléaire et on continue
tant
à...
Tant mieux. Mais c'est encore l'actualité, c'est une épée de Damoclès qu'on a
résoudre ce problème. Les Américains vont en tirer parti parce que eux, ils ont pris ce prétexte dont ils savent qu'il est complètement faux pour faire du protectionnisme et investir dans leur propre pays. Bravo. Nous, on n'ose pas le faire. C'est la naïveté dont parlait Christopher tout à l'heure. Valentine, le mot du monde d'après.
Monde d'après, ce serait équilibre social. Toutes ces nouvelles technologies vont amener, vont polariser le marché du travail. Il y aura des gagnants, des perdants. Il y a un besoin de formation. Il va y avoir besoin de formation continue sur le marché du travail pour éviter que certaines parties de la population soient trop pénalisées. Le monde d'après, c'est aussi des prix de l'énergie qui vont être peut-être plus élevés. Et là, attention, parce que les populations les moins aisées sont beaucoup plus exposées à ces hausses de prix de l'énergie. Et le monde d'après aussi, si on maintient ces taux réels en territoire légèrement négatif, ça veut dire des prix des actifs qui vont continuer d'augmenter. Et là, encore, ça fait des inégalités de patrimoine importants. Donc attention au monde d'après, à cette égalité, à cet équilibre social.
Alors ce que je vous répondrais, mais on n'a pas le temps de débattre, c'est que toutes ces avances en termes d'intelligence artificielle touchent en fait une catégorie de personnes qui ne sont pas les plus défavorisées. Mmh. C'est-à-dire qu'en ce moment, on assiste plutôt à une revalorisation des métiers les plus défavorisés avec des hausses de salaire. On l'a vu pour les enseignants, on va le voir dans la restauration.
Ce
qui est très bien. Et par contre, ceux qui vont être touchés, les Américains parlent d'une rich station, c'est-à-dire c'est la classe moyenne.
Oui, mais donc l'équilibre social est aussi...
Non, je comprends, mais pour une fois, c'est une révolution industrielle qui ne touche pas les plus défavorisés, non ?
Oui, qui va toucher la classe moyenne, mais néanmoins, les prix des actifs, les prix de l'énergie, ce sont aussi des choses qui vont toucher les moins défavorisés. Donc, globalement, il y a un équilibre de société qui va être mis en cause.
Alors, je vais vous demander une valeur monde d'après, Christian Buteau.
Alors, monde d'après...
Attends. D'abord, je vous donne votre portefeuille. Vous me dites si je vends des
trucs. C'est le monde d'avant.
Ça, c'est... Non, parce que vous avez du Apple. C'est le monde d'après, Apple.
Oui.
Dassault Aviation, c'est du monde d'après.
Très bien.
Legrand.
Parfait.
Siemens.
On plug.
Microsoft, vous êtes à fond.
Microsoft, ChatGPT.
Saint-Gobain, vous êtes à fond dans la transition énergétique dans le bâtiment.
Exactement.
Vous avez comme
mais c'est pas très payant, oui, mais le problème, c'est
on
que les thématiques
ça.
À la mode.
Bah,
c'est
oui, pas très enfin, payant. Ça fait 12,5% depuis le début de l'année, ça me suffit, moi. Air Liquide, c'est à fond, 22,6%. BNP,
oui, bah, oui, mais on garde maintenant, on garde.
Mais le monde d'après
Oui, mais la BCE sera là s'il y avait un problème en zone euro, on le sait.
C'est une agence de la BCE. Stellantis, c'est le monde d'après s'ils y arrivent.
Oui, ils font leur conversion.
Les détruisent pas en quelques jours. Pfizer, Pernod Ricard, c'est le monde d'après parce que c'est les problèmes sociaux
dont
on a parlé.
Oui, ça c'est pour oublier.
Valentine.
On garde la liste.
Michelin.
Pernod Ricard, Michelin.
Stora Enso. Ça.
Décevant. Très décevant, mais ça a tellement baissé qu'il faut la conserver.
Allez, qu'est-ce qu'on achète ?
Alors voilà, vraiment, j'ai réfléchi à une valeur d'après.
D'après.
Je pense que peu de gens la connaissent.
Pas d'avant,
C'est un des trois leaders mondiaux, en fait, des robots, des machines robots.
Ah bah voilà,
c'est Keyence. C'est une société japonaise, donc on trouve cotée à la bourse de Tokyo. C'est une grosse capitalisation, hein, tout de même plus de 100 milliards de dollars. Et il n'y a pas une usine qui ouvre en Chine avec des robots où il n'y ait pas Keyence dedans. Comme le mot d'ordre aux États-Unis et bientôt en Europe et même en France, ça vient d'être annoncé, c'est la relocalisation, la réindustrialisation, eh ben ça se fera pas avec du personnel parce qu'il y a le risque
que
c'est
du pipeau, Christopher Delmont. Bah oui, il a raison.
Il y aura du Keyence partout en fait, c'est de la robotique, la société Keyence que je rentre
pas. Et ils sont très en avance.
Ah mais c'est incroyable, c'est une émission comme la nôtre se tiendra avec des robots. Elle est à Singapour, il y a des robots absolument partout. Elle est à Tokyo, la police est faite, même des émissions télé, vous avez des robots.
Donc c'est des vrais robots, c'est pas de la robotique industrielle.
Il y a de la robotique industrielle, mais ils ont aussi des extensions.
Peuvent nous faire une Valentine et nous en robot.
Non.
C'est moins impressionnant.
Bah, et aucune chance. Louis de Montalembert, je vous donne votre portefeuille.
Ouais.
Vous me dites. Alors, votre portefeuille est déjà très monde d'après. Hein.
Ouais.
Alors, peut-être qu'on verra. Bon, vous avez du CrowdStrike, du Datadog, du Snowflake, du Bill.com, du Cloudflare, du HubSpot, du Stellantis.
Alors ça, je vais vendre Stellantis. J'adore le patron.
Bon, ça a fait 21% d'euros, ça va.
Non, et puis le problème, c'est quand même les baisses de prix récurrentes.
Ah, les Chinois vont les massacrer.
Oui, et puis la puissance de Tesla.
Ah ouais.
Donc je suis inquiet.
Moi aussi, je suis inquiet. Ça me fait de la peine.
C'est plus de l'inquiétude qu'une...
Et moi, ça me chagrine.
Ouais.
Believe.
Ouais, ouais.
Amadeus.
Ouais.
Alors, je sais pas comment ça dit, ça. Zscaler.
Oui, très bien. Bravo.
Tain, pour une fois, je ne suis pas planté. Cellnex.
Ouais.
Et Twilio.
Oui.
Qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce qu'on rachète ?
Alors, j'étais vraiment dans l'idée d'une valeur du monde d'après.
Oui.
Et donc,
bah, c'était l'idée, en fait.
Voilà.
Ce que je vous avais demandé.
Mais je pensais que
ce n'était
pas les portefeuilles. Donc, j'ai choisi spécifiquement CrowdStrike, donc que je renforce.
Et vous allez nous réexpliquer ce qu'elle fait.
Alors,
CrowdStrike, pourquoi.
C'est un acteur émergent de la cybersécurité qui est en train de prendre le leadership mondial. C'est une entreprise qui faisait 118 millions de chiffre d'affaires en 2017 et qui a fait 2,2 milliards de chiffre d'affaires en 2022, des dollars. qui va faire plus de 3 milliards l'année prochaine. Donc c'est des croissances spectaculaires, hein, plus 54% juste sur cette année. Elle est plus qu'à un point de Symantec, qui est l'acteur de l'ancien monde de la cybersécurité. En fait, le cloud, en délocalisant les données, a changé complètement l'architecture de cybersécurité.
Impressionnant.
Donc c'est une entreprise qui vaut 27 milliards, qui fait à peu près 800 millions de cash flow libre, en croissance de 80% sur l'année 2022. Donc ça me paraît être la valeur à détenir absolument dans un portefeuille.
Et ça, c'est des valeurs, par exemple, depuis le début de l'année, elles ont bien rebondi, mais elles sont pas trop chères, non? Il faut pas se poser,
Elles ont baissé de 50 ou 60% l'année dernière. Donc le rebond de cette année n'est qu'une toute petite portion de ce qui s'est passé l'année dernière.
Et ça, c'est des boîtes, par exemple, qui peuvent être des cibles pour des gros?
Il
y a une valeur spéculative ou pas?
Je ne pense pas.
D'accord. Bon, bah alors, fallait pas vous stresser comme ça pour cette émission. Vous avez préparé, ils m'ont envoyé des messages. J'ai essayé de les détendre en disant, OK, c'est vrai que c'est une émission spéciale. C'est vrai que la spéciale inflation, les mecs avaient été très bons et donc il faut faire des efforts. Mais franchement, vous avez été à la hauteur. Bah, ça veut dire qu'on en refera d'autres des spéciales parce qu'elle était excellente. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera, elle sera pas spéciale. Elle sera exceptionnelle. En attendant, vous pouvez nous écouter, nous réécouter encore en podcast et en replay. Et je le dis et je le répète parce que c'est vrai, on cartonne en replay.